Merci d'écouter RFI. Il est midi en temps universel, 14h ici à Paris.
RFI midi.
C'est l'heure du journal de Jean-Baptiste Marot. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Anne, bonjour à toutes et à tous. C'est un procès qui rappelle les grandes heures de la guerre froide en Russie, celui du journaliste américain Ivan Gershkovitch qui s'est ouvert ce matin devant un tribunal d'Yekaterinbourg dans l'Oural. Le reporter du Wall Street Journal y comparaît pour espionnage, ce qu'il conteste. Nous serons en ligne avec la correspondante de RFI en Russie dans un tout petit instant. À la une également le retour de Julian Assange en Australie, son pays natal. Le fondateur de Wikileaks y est arrivé tout à l'heure après l'audience devant un tribunal fédéral américain des îles Marianne qui a confirmé l'accord scellé par le lanceur d'alerte avec la justice américaine. On fera aussi le point dans ce journal sur la campagne pour le premier tour des législatives en France avec Raphaël Delvolvé du service politique de RFI. On reviendra notamment sur le départ fracassant du député du Lot Aurélien Pradier des Républicains ce matin. Et puis au Kenya, la répression des manifestations contre la loi de finances a fait au moins 22 ou 23 morts hier selon les organisations de défense des droits de l'homme, le groupe de travail sur la réforme de la police, une plateforme qui regroupe une vingtaine d'ONG continue à enquêter sur les violences policières. On y reviendra longuement dans une demi-heure dans Afrique Midi.
Et on commence donc avec une fois encore un parfum de guerre froide ce mercredi entre la Russie et les États-Unis.
Un parfum de guerre froide avec l'ouverture ce matin du procès d'Ivan Gershkovitch, le premier journaliste occidental poursuivi pour espionnage en Russie depuis l'époque soviétique. Il se déroule ce procès à Yekaterinbourg dans l'Oural, la ville où Ivan Gershkovitch avait été arrêté le 30 mars 2023 alors qu'il était en reportage. Le correspondant du Wall Street Journal est accusé par Moscou d'avoir espionné pour le compte de la CIA, ce qu'il nie vigoureusement. Heureusement, tout comme d'ailleurs ses proches ainsi que son employeur et même la Maison Blanche. Reste qu'aujourd'hui, eh bien, le journaliste américain est seul avec ses avocats face au juge. Le procès se déroule à huis clos, Anissa El Jabri.
Dans son costume bleu, à l'allure presque militaire, le chef du parquet criminel a lâché à peine quelques mots à la presse à l'issue d'une première audience qui a duré une poignée d'heures.
Le tribunal de la région de Sverdlovsk a ouvert 5 affaires contre le citoyen américain Ivan Gershkovitch. Il est surtout accusé d'avoir commis un crime en vertu de l'article 276 du code pénal de la Fédération de Russie, à savoir l'espionnage. L'enquête préliminaire a été menée par le département des enquêtes du FSB de Russie.
Du contenu de cette enquête menée par les services de renseignement intérieur, on ne sait rien. La Russie n'a jamais étayé publiquement les accusations portées, tout ou presque, et du reste sous le sceau du secret. Les photos et les vidéos autorisées du journaliste ce mercredi, elles ont été acceptées à la condition stricte du silence total, interdit de même demander à Ivan Gershkovitch debout dans une cage vitrée entourée de deux policiers, tout simplement comment il va. La salle où il a été vu brièvement n'est pas celle où il comparaît. C'est un lieu secret, fermé au regard aussi, l'entrée spéciale par laquelle il est arrivé au siège du tribunal régional. Enfin, la durée du procès n'est pas connue, mais depuis 8 jours, la Russie fait monter la pression. Nouvelle déclaration à la mi-journée venue de sa diplomatie. Washington devrait sérieusement étudier les signaux de Moscou sur un échange de prisonniers. Ivan Gershkovitch risque 20 ans de prison. Anissa El Jabri, Yekaterinbourg, RFI.
La Russie qui a réagi également tout à l'heure à l'officialisation de la nomination de Mark Rutte à la tête de l'OTAN. Elle est tombée ce matin. Le Premier ministre néerlandais qui va prochainement quitter son poste succédera le 1er octobre à Jens Stoltenberg au secrétariat général de l'Alliance. Nomination suite à laquelle le Kremlin, je cite, n'attend aucun changement. À l'heure actuelle, cette alliance nous est hostile, a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. De son côté, en revanche, le président ukrainien, lui, se félicite de la nouvelle. Mark Rutte est un dirigeant fort et respectueux des principes, a écrit sur X Volodymyr Zelensky. À la une également, Julian Assange, de retour en homme libre dans son Australie natale. Son avion s'est posé sur place tout à l'heure, juste avant le lanceur d'alerte, avait comparu devant un tribunal fédéral américain des îles Marianne. Comme prévu, l'audience s'est déroulée sans surprise. En échange de son plaidé coupable, la justice américaine l'a condamné à une peine de 62 mois de prison, considérée comme déjà couverte par les 5 années qu'il a passées en prison. Au Royaume-Uni, il reste qu'à Londres, justement, cet accord, eh ben, il ne fait pas tout à fait l'unanimité. Bonjour Emeline Vin.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous.
Vous êtes la correspondante de RFI au Royaume-Uni, un accord qui ne fait pas complètement l'unanimité, Emeline, hein, chez vous, parce que plusieurs associations de défense des libertés s'inquiètent notamment de l'impact que pourrait avoir ce compromis sur la liberté de la presse.
Oui, le futur gouvernement britannique doit mettre en place des mesures de protection des journalistes, qu'il s'agisse d'une convention, d'un traité international ou d'un autre mécanisme. C'est ce qu'exige Amnesty International après l'accord judiciaire conclu lundi. Pour l'ONG, le gouvernement britannique s'est rendu complice des dégâts historiques de l'affaire sur la liberté d'expression à travers le monde, en acceptant de donner suite aux demandes d'extradition américaines. Londres doit donc maintenant, je cite, « aider à ranger le bazar ». Dans le même temps, l'organisation Reporters sans frontières, qui défend la liberté de la presse à travers le monde, compte établir un exemple à ne pas suivre. Sa directrice des plaidoyers, Rebecca Vincent, espère que si un problème similaire venait à se poser dans le futur, le gouvernement britannique enverrait un message différent, favorable cette fois à la liberté de la presse. Des espoirs et des demandes répétées par l'avocate Julian Assange qui demande à Londres de faire pression sur Washington pour ne plus poursuivre de journalistes ayant enquêté sur des informations sensibles mais d'intérêt public.
Emeline Vin, correspondante de RFI au Royaume-Uni en direct de Londres. Merci Emeline pour toutes ces précisions.
14h06 en France, nous sommes à J-4 du premier tour des législatives anticipées.
Oui, et le principal fait de campagne ce mercredi, Anne, c'est cette nouvelle secousse chez les Républicains, alors que le ralliement au Rassemblement National d'Éric Ciotti, son ex-président, ou son toujours président, on ne sait d'ailleurs plus très bien, ce ralliement fait toujours dangereusement tanguer le navire. Eh bien, nouveau coup de théâtre ce matin, hein, le député sortant et candidat à sa réélection dans l'Hôte Aurélien Pradier annonce quitter le parti, Raphaël Delvolvé.
Oui, un parti qu'il considère comme mort, plus en capacité de parler aux Français. Si Aurélien Pradier lâche pour de bon LR, ce n'est pas pour rejoindre les rangs d'Emmanuel Macron dans la future Assemblée. Il dit vouloir devenir, je cite, un député à l'origine de quelque chose de nouveau. Il embarque avec lui 30 candidats pourtant investis il y a peu par le parti Les Républicains. Il assure qu'ils concourront dimanche sous les couleurs de son micro-parti à lui, du courage. Le départ d'Aurélien Pradier ne surprendra pas tout le monde. Il a toujours été une voix dissonante chez LR. Il s'était notamment opposé à la réforme des retraites l'an dernier contre l'avis de son groupe à l'Assemblée. Ça lui avait d'ailleurs coûté sa place de numéro 2 du parti. La grande surprise de cette annonce réside surtout dans le timing. Nous sommes maintenant à 4 jours du premier tour. Et puis vous l'avez rappelé, nous sommes dans une période très compliquée pour LR après l'alliance scellée par Éric Ciotti avec le RN. Un psychodrame politico-juridique dont on ne voit pas le bout cet après-midi encore. Les adversaires du toujours président du parti tentent pour la troisième fois, de le destituer.
Le premier tour des législatives dimanche, juste avant lequel aussi le gouvernement annonce aujourd'hui la dissolution de plusieurs structures d'ultra-droite. Raphaël, sont concernés le GUD, un syndicat étudiant des années 70 réactivé récemment, mais aussi trois groupes lyonnais, parmi eux notamment celui baptisé Les Remparts, qui a décidé de contester la mesure devant le Conseil d'État. La décision a été prise en Conseil des ministres. Ce matin, la haine des extrêmes doit être combattue par la République, a tweeté le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sitôt l'information rendue publique. En Inde, il confirme sa place d'opposant numéro 1 à Narendra Modi, chef de file du parti du Congrès. Rahul Gandhi a été désigné tout à l'heure leader de l'opposition, un poste qui n'existait plus depuis une dizaine d'années, alors que sa formation est sortie renforcée des législatives qui se sont achevées là-bas le 4 juin. C'est donc lui qui mènera la charge au Parlement indien contre la coalition du Premier ministre. Koum Bastin est le correspondant de RFI à Bangalore.
Il faut un minimum de 56 députés au Parlement à un parti pour prétendre au poste de leader de l'opposition. Et aucun parti d'opposition n'avait atteint ce nombre depuis l'élection triomphale de Narendra Modi en 2014. Le parti du Congrès dispose désormais d'une centaine de sièges et a donc pu faire élire Rahul Gandhi. Il s'agit d'un véritable poste gouvernemental qui donne voix au chapitre sur d'importantes nominations dans les agences de l'État. Le leader de l'opposition est aussi le successeur logique du Premier ministre si le gouvernement est renversé. Rahul Gandhi s'est adressé au président du Parlement, un membre du BJP de Narendra Modi, lui aussi fraîchement élu.
Bien sûr, le gouvernement a le pouvoir politique, mais l'opposition représente elle aussi la voix du peuple indien. Et lors de ces élections, les Indiens ont affirmé qu'ils voulaient une opposition renforcée afin de défendre la constitution de ce pays.
Malgré quelques dissensions, le choix de Rahul Gandhi s'est imposé au sein de la coalition d'opposition. Autrefois impopulaire auprès des Indiens, l'héritier de la dynastie Nehru Gandhi a su faire évoluer son image. L'organisation de deux grandes marches pour l'harmonie à travers le pays et son élection dans l'Uttar Pradesh, un état considéré comme un bastion du BJP, y a contribué. Koum Bastin, Bangalore, RFI.
En Israël, l'utilisation par l'armée d'engins de la marque Caterpillar dans la bande de Gaza, mais aussi en Cisjordanie occupée, où ils sont mis au service de la colonisation, conduit aujourd'hui le principal fonds de pension norvégien à prendre une mesure qui a un certain écho. Celui-ci vient d'annoncer son désengagement de l'entreprise américaine, raison invoquée à Oslo. Caterpillar pourrait ainsi contribuer aux violations des droits de l'homme en Cisjordanie et à Gaza. L'annonce s'inscrit dans la vague d'appels au boycott financier lancé contre l'État hébreu en réponse à son offensive dévastatrice à Gaza au lendemain des attaques du 7 octobre. Des appels, Nicolas Feldman, qui commencent à avoir des effets sur l'économie israélienne.
Oui, les derniers chiffres pour le premier trimestre sont d'ailleurs assez alarmants. Un exemple, les investissements directs étrangers en Israël ont été divisés par deux en un trimestre. Alors, cela s'explique évidemment par la guerre à Gaza. L'incertitude dissuade les investisseurs. Mais pour l'économiste Jacques Bendelak, cela montre aussi que l'appel au boycott affecte l'économie israélienne.
L'impact commence à se faire ressentir. Ce n'est plus un appel, ce sont des réalités. C'est bien entendu, en premier secteur, les technologies qui ont vu la levée de fonds des investissements étrangers chuter de moitié depuis le début de la guerre. Et puis, de façon générale, l'industrie, le commerce, les services. Donc, il y a aujourd'hui un retrait des investissements étrangers en Israël.
Autre conséquence de ce boycott, plusieurs pays ont arrêté leurs exportations vers Israël. C'est le cas de la Turquie et cela fragilise le secteur, notamment de la construction, déjà en difficulté.
Israël a acheté l'essentiel de ses matériaux de construction à la Turquie. Depuis quelques semaines, les matériaux n'arrivent plus et donc le secteur de la construction est quasiment à l'arrêt du fait de cette réaction de la Turquie, et sans parler des produits de consommation courante qui viennent aussi de la Turquie et qui se sont renchéris très rapidement. Donc l'élévation du coût de la vie que l'on connaît en Israël est aussi due à ce type de réaction comme celle de la Turquie.
Mais alors est-il possible de mettre fin à ce boycott d'Israël? La seule solution, estime l'économiste, serait de répondre aux demandes des soutiens des Palestiniens, retrait de la bande de Gaza, libération des otages, des options aujourd'hui inenvisageables pour le gouvernement israélien d'extrême droite.
Nicolas Feldman du service économie en direct sur RFI.
Et on va continuer à parler d'économie avec cette première dans le monde pour lutter contre le réchauffement climatique.
Après 5 mois d'âpres négociations, le gouvernement danois vient effectivement de conclure un accord historique avec ses agriculteurs et les associations de défense de l'environnement. Le texte prévoit la mise en place d'une taxe carbone sur l'élevage, lui aussi responsable, comme tant d'autres secteurs économiques, d'émissions de gaz à effet de serre qui contribuent à la hausse des températures de la planète. Le compromis entrera en vigueur en 2030, Lucille Gimbert.
Les zones agricoles couvrent 2/3 du territoire du Danemark, gros exportateur de porc et de produits laitiers. Et l'agriculture est responsable de 30% des émissions de gaz à effet de serre du pays. Il était donc temps de décarboner les fermes, explique Thorsten Arsford du groupe de réflexion pro-climat Conchito.
Notre production d'énergie a évolué. Elle est passée du charbon aux éoliennes et aux panneaux solaires. Nous achetons des voitures électriques. Nos industries disent aussi au revoir au charbon, au gaz et au pétrole et utilisent de l'électricité à la place. Mais avec l'agriculture, ça restait difficile. Cet accord, c'est donc une façon de forcer le monde agricole à trouver des solutions pour réduire ses émissions.
16 euros par tonne de CO2 émise à partir de 2030, puis 40 euros à partir de 2035. Les agriculteurs ont signé. Cela leur laisse le temps de se retourner. Emma Sander de l'Association danoise pour la conservation de la nature.
Nous pensons que nous devons élever moins d'animaux et cultiver plus de plantes au Danemark. Et ce texte va contribuer à cette transformation structurelle. Cela dit, il existe des solutions pour réduire les émissions dans les fermes, certaines techniques de gestion du lisier, utiliser moins de fertilisants ou encore laisser une partie des terres en jachère.
L'accord prévoit aussi un fonds pour transformer des terres agricoles en forêts, restaurer des zones humides et réduire les rejets d'azote liés à l'agriculture.
Et puis on termine avec un documentaire que tous les fans de Céline Dion attendaient avec impatience, le documentaire Je suis Céline qui vient de sortir sur la plateforme Prime Video. Film dans lequel la star planétaire atteinte d'une maladie neurologique très rare dévoile son quotidien. Alors quelles sont les premières réactions de ceux qui ont déjà pu le voir? Illustration tout de suite avec ce reportage au Québec, la province canadienne d'où est originaire la chanteuse. Il est signé Pascal Guéricola.
I miss it so much. People.
Le visage déformé par la tristesse, Céline Dion confie que le public lui manque terriblement. Depuis que sa maladie, le syndrome de la personne raide, la tient éloignée de la scène. Un manque que ressent cette fan qui suit sa carrière depuis 4 décennies.
Je me disais, pauvre Céline, j'aurais voulu la prendre dans mes bras, la réconforter, parce que on pleure puis on se retient en même temps. Mais c'est un choc.
Le documentaire revient sur les grands moments de la carrière de la star, sur ses efforts pour dominer sa maladie, mais il montre aussi son quotidien avec ses jumeaux, ce qui a réconforté cette autre fan.
Ce qui me frappe le plus, c'est l'amour de ses enfants. Je trouve que ses enfants ont l'air à bien s'occuper de leur maman.
Au-delà du drame qu'elle vit, une autre spectatrice, elle, a été frappée par l'humanité du personnage.
On découvre quelqu'un qui a énormément d'humour, personne attachante. Parfois, on voit la vraie Céline qui a presque oublié la caméra. Puis à d'autres moments, on sent qu'elle est consciente que la caméra est là.
À la fin du documentaire, l'artiste enregistre une chanson, comme pour prouver à ses fans qu'elle compte bien revenir. Pascal Guéricola, Québec, RFI.
Fin de ce journal, c'est à vous, Anne Contenaire, pour la suite des RFI Midi.
Merci Jean-Baptiste Marot. Il est 14h16 ici à Paris et tout de suite on va parler de l'actualité sportive. Bonjour Martin Guez.
Bonjour Anne, bonjour à toutes et à tous.
On va commencer en Allemagne avec l'Euro de football où l'équipe de France sort d'un premier tour bien tristoun.
Ah oui, si bien que les observateurs se demandent ce matin et aujourd'hui, ce midi, quel est le réel niveau des Bleus à l'arrache, titre le quotidien L'Équipe après le match nul face à la Pologne. Encore nul pour le Parisien, trop neutre, trop mou pour le Parisien, pour le Figaro, pardon, car hormis un pénalty de Kylian Mbappé, la France s'est encore montrée maladroite et inefficace, tant et si bien que la Pologne a fini par revenir à hauteur sur un pénalty là aussi de Robert Lewandowski. Résultat des courses, les Français terminent deuxième de leur poule, derrière l'Autriche, vainqueur surprise des Pays-Bas, 3-2. Pas vraiment du goût de Youssouf Fofana, milieu de l'équipe de France.
Match assez frustrant, je dirais. Voilà, il manque ce facteur chance pour pousser le ballon au fond. On sait tous que dans le football, il y a un peu de chance. Toujours un pied, une balle contrée ou personne dans la zone. Je ne pense pas que ce soit de l'inefficacité, parce que ça voudrait dire qu'on a quand même tiré et que c'est passé à côté ou pas. Alors que là, c'était différent, je trouve.
Voilà, différent mais pas mieux. Youssouf Fofana au micro d'Antoine Grenier, des Bleus que l'on retrouvera lundi soir en 8e de finale à Düsseldorf. Reste à savoir face à qui.
Et justement, les joueurs de Didier Deschamps seront fixés aujourd'hui à l'issue des matchs du groupe E, un groupe pour le moins indécis.
Ah oui, Anne, car après deux journées, toutes les équipes en sont au même stade. Roumanie, Belgique, Slovaquie et Ukraine affichent tous 3 points au compteur. Celui qui terminera deuxième affrontera l'équipe de France en huitième, mais cela pourrait bien être la Belgique. Après son faux départ contre la Slovaquie, elle a redressé le tir en battant la Roumanie 2-0. Des Diables Rouges qui retrouveront l'Ukraine tout à l'heure et qui compteront sur Romelu Lukaku, qui pourrait être l'un des meilleurs buteurs de cet Euro. Mais il a vu ses 3 buts inscrits jusqu'ici annulés pour hors-jeu. Il est temps de marquer pour de vrai, donc ça ne devrait plus tarder selon son coéquipier Amadou Onana.
J'aimerais commencer par dire que sans les buts de Romelu en qualification, on serait pas là. Du coup, nous, en interne, on sait ce qu'il apporte à l'équipe. On sait que c'est quelqu'un qui a l'habitude du showtime, entre guillemets, des grands événements. Il sait ce que c'est de jouer avec cette pression-là, de l'assumer. Donc je me fais aucun souci par rapport à ça. On sait ce qu'il apporte et il va encore être crucial tout au long de ce tournoi. Maintenant, je pense que le plus important, c'est quand même la qualification. C'est quand même de passer au prochain tour et on va tout faire pour.
Voilà, showtime, Belgique-Ukraine, coup d'envoi à Stuttgart à 16h temps universel et dans le même temps à Francfort, le Slovaquie qui affrontera la Roumanie.
Et un peu plus tard dans la soirée, fin du premier tour avec les matchs du groupe F.
Où une hiérarchie un peu plus nette se dessine, le Portugal assume son statut de favori, 2 matchs de victoire, la dernière probante face à la Turquie 3-0. Les coéquipiers très collectifs de Cristiano Ronaldo retrouveront tout à l'heure la Géorgie qui peut espérer se qualifier pour les huitièmes en cas de victoire. Ce serait une belle surprise pour un premier Euro. Et puis dans l'autre rencontre, la Turquie, 3 points au compteur, défiera la République tchèque. Géorgie-Portugal et République tchèque-Turquie, c'est à 19h, temps universel.
Loin de l'Euro, direction les États-Unis pour la deuxième journée de la Copa América.
Qui sourit toujours au champion du monde argentin, vainqueur sur le fil dans la nuit du Chili, 1-0 sur un but de Lautaro Martinez. Tandis que le Canada a battu le Pérou sur le même score à Kansas City grâce au Lillois Jonathan David. L'Argentine qui a déjà son ticket pour les quarts de finale, tandis que le Canada et le Chili se disputeront le deuxième ticket lors de la dernière journée.
On reste aux États-Unis pour parler de basket, de la draft.
Oui, exactement, la draft, vous savez, Anne, c'est ce rituel, ce passage obligé pour les jeunes talents qui espèrent intégrer la prestigieuse NBA. L'an dernier, souvenez-vous, c'était le début de la Wemby Mania. C'est le début aussi de la chanson de Wemby dont on ne se lasse pas. Voilà, Victor Wembanyama qui affolait les compteurs, qui affolait les supporters, il filait aux Spurs, sélectionné en première position de la draft. Puis deux Français qui ont cette année aussi la cote, ils espèrent avoir droit aussi à leur petite chanson. Zachary Rizaché et Alexandre Sarr sont pressentis aussi pour être choisis en premier. Réponse la nuit prochaine à New York.
Et franchement, on a hâte de découvrir le nouveau morceau.
Forcément.
Merci Martin Guez. RFI.
Le Monde à midi.
On va parler maintenant du Kenya où la situation est plus calme aujourd'hui après une journée particulièrement violente hier, des manifestations une fois encore pour dénoncer les nouvelles taxes prévues par le gouvernement. Certains protestataires hier sont entrés dans le Parlement, des bâtiments ont été saccagés, il y a eu un incendie partiel et face aux manifestants, des gaz lacrymogènes, des balles en caoutchouc avant des balles réelles et un bilan très lourd, au moins 22 morts. Notre invitée pour en parler est chercheuse à l'Institut des Mondes Africains, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Bonjour Marie-Emmanuelle Pomerol.
Bonjour.
Au moins 22 morts selon les ONG et peut-être plus parce que la société civile évoque aussi de nombreux morts lors d'une opération contre des manifestants à Gitouraï dans la banlieue de Nairobi. Ça c'était dans la soirée, dans la nuit même.
Oui, il y a assez peu d'informations sur la concentration de la répression dans ce quartier périphérique. Mais effectivement, l'association notamment des médecins du Kenya évoque le fait que beaucoup de blessés et de morts seraient arrivés de ce quartier hier dans la nuit.
Alors les ONG ont dénoncé aussi en plus des tirs contre des manifestants, des enlèvements par des officiers en uniforme ou en civil et ça durant les 24 heures précédant la manifestation. Est-ce qu'on sait où ces personnes ont été détenues et dans quelles conditions ?
Non, il y a quelques témoignages qui commencent à apparaître sur les réseaux sociaux de ceux qui ont pu en sortir. Un médecin notamment qui a été capturé dimanche pour quelques heures, un médecin qui s'occupait de récolter du sang en prévision des manifestations et puis des jeunes dont on ne sait toujours pas où ils ont été où ils ont été gardés pendant ce temps-là, dont certains n'ont pas encore la force de parler en fait. Mais ça, ces enlèvements en fait ciblaient des gens qui étaient très visibles sur les réseaux sociaux dans l'organisation de démobilisation.
Et le président hier a eu des mots très durs à leur égard. Il a prévenu que la violence et l'anarchie seraient sévèrement réprimées. Pourquoi les autorités, selon vous, ont choisi la manière forte ?
Alors effectivement, le président Ruto hier a utilisé plusieurs fois le terme de criminel hein, et il n'a absolument pas parlé des jeunes qui avaient été tués par la police. Donc et il a mis en place l'armée hein, qui est désormais en charge de l'ordre de public. La cible hier du Parlement, évidemment, peut être une justification pour lui, pour cette manière forte. Après, il faut se rappeler que c'est un homme politique qui, depuis 35 ans, navigue donc dans les institutions politiques kényanes et dans les années 90, qui était encore l'ère du président Moy, hein, une ère plutôt autoritaire. Hein, il était l'un des maillons de l'usage de la violence. Donc c'est quelqu'un qui a été élu tout à fait démocratiquement, mais qui a une histoire, on va dire, quand même, de l'usage de la répression.
Est-ce que, selon vous, le pouvoir, le gouvernement, se sent, voire le président même, se sent menacé aujourd'hui par ce mouvement de contestation ?
Ah, il est sûr que c'est la première fois que des manifestants occupent le Parlement. C'est assez inédit. Hein. Enfin, c'est complètement inédit. Il n'y a pas eu que le Parlement hier hein, qui a été ciblé dans d'autres villes en dehors de la capitale, hein, puisque je rappelle qu'il y a eu des manifestations dans au moins la moitié des counties, des régions du Kenya, et donc d'autres institutions plus locales. Ou alors les sièges des députés ont été ciblés, saccagés. Donc effectivement, il y a une vraie défiance envers le personnel politique hein, qui est exprimé par ce mouvement. Après, les institutions kényanes sont fortes. Il y a une justice qui est relativement respectée, des avocats, des institutions religieuses également, donc qui vont peut-être essayer de faire le tampon entre ce gouvernement et ces jeunes qui protestent.
Alors, le texte qui cristallise les critiques et qui a déclenché ce mouvement, le projet de budget et les nouvelles taxes qu'il prévoit doit encore être promulgué par le président. Est-ce que vous pensez que William Ruto pourrait le bloquer pour apaiser la situation ?
Alors, c'est possible, d'autant que le Parlement ne reprendra ses travaux, me semble-t-il, que fin juillet, suite à ce qui s'est passé hier. Donc, il est possible, effectivement, qu'il puisse temporiser de cette manière. Bon, reste que le problème de la dette et du besoin de recettes publiques reste entier, hein, mais... effectivement, ça pourrait être un moyen de tenter la désescalade. On verra également demain, puisque les mobilisations doivent reprendre demain, comment est-ce que le gouvernement tente de négocier.
Avec donc l'armée désormais qui s'occupe du maintien de l'ordre.
Exactement, exactement.
Je vous remercie beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, Marie-Emmanuelle Pomerol. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et chercheuse à l'Institut des mondes africains. Nous reviendrons évidemment sur la situation au Kenya, dans Afrique Midi, dans quelques minutes maintenant, et nous appellerons notre correspondante à Nairobi. Mais d'ici là, reportage à Amsterdam, dont le nom est associé, dont de nombreux esprits, aux prostituées, à la drogue et à la fête. Ces excès attirent chaque année des millions de touristes, mais la mairie d'Amsterdam veut se défaire de cette image, changer de public et diminuer le nombre de visiteurs tout court d'ailleurs. Pour y parvenir, les autorités locales ont pris toute une série de mesures. Plus de bateaux de croisière, interdiction de fumer du cannabis dans les rues, augmentation de la taxe de séjour ou encore plus récemment, l'interdiction de construire de nouveaux hôtels. Peut-être un peu trop radical pour les professionnels du tourisme que notre reporter Julien Chavanne a rencontré.
Bienvenue à bord du Ship Dock, une péniche d'une dizaine de mètres. C'est parti pour une heure de balade sur les canaux bondés d'Amsterdam. Guido est notre capitaine et c'est peu dire qu'il voit d'un mauvais œil les tentatives de la mairie pour réguler le tourisme.
Vous ne pourrez pas empêcher les gens de venir ici, c'est impossible. On a essayé avec l'Angleterre et ça a été contre-productif. On a eu encore plus de monde d'Angleterre en leur disant de ne pas venir.
Alors il n'y a pas de solution ?
Pas besoin. Je vis ici depuis 60 ans. J'ai 60 ans. Et ça a toujours été comme ça. À mes yeux, Madame Halsma, notre mère, est une idiote. Et la meilleure chose qui puisse lui arriver, c'est qu'elle parte.
Guido navigue pour Bulldog, à l'origine un coffee shop fondé il y a une quarantaine d'années et qui au fil du temps est devenu un poids lourd du tourisme à Amsterdam. Bar, hôtel, briquet souvenir, tout pour faire la fête, justement ce que la mairie ne veut plus voir.
Remco
Groen. Je m'appelle Remco Groenhuizen, je suis le manager de l'hôtel Mövenpick à Amsterdam.
Hôtel.
Costume cravate impeccable, Remco nous reçoit dans l'immense hall de son hôtel, l'un des plus grands de la ville. Devant un verre d'eau pétillante, il nous raconte pourquoi, selon lui, la mairie se trompe de cible.
55% des gens qui visitent Amsterdam le font dans la journée. Ils ne sont donc pas concernés par cette mesure. On a l'impression que les mesures qui sont prises pénalisent les touristes qui ne posent pas de problème dans la ville.
Pour Remco, la mairie mélangerait les bons touristes, plus âgés, au portefeuille bien fourni, avec les mauvais touristes, les jeunes venus uniquement pour faire la fête. Retour sur le pont du Ship Dock. Morgan et Alexandra, un couple d'Américains venus de Miami, profitent de la visite, canette de bière à la main.
C'est ma deuxième fois ici, la première pour elle. On voulait voir le centre-ville, profiter de la nourriture.
Et pour eux, pas besoin d'en faire plus pour réguler l'afflux de touristes. Ce n'est pas l'avis des 30 000 habitants d'Amsterdam qui ont voté pour plus de restrictions en avril dernier. Amsterdam, ville à la fois gâtée et maudite par la manne touristique, n'a pas encore trouvé la bonne formule.
Reportage de Julien Chavanne à Amsterdam où il est 14h29 comme ici à Paris. On se retrouve dans une minute pour toute l'actualité africaine. À tout de suite.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix. Pascal Paradou.
Sur un tracteur en juillet, le conteur Yannick Jolin a décidé de faire une tournée mondiale locale, car le Poitou, c'est connu, c'est le monde. Puis en août, il va célébrer la flemme Olimplouk dans le cadre du Festival des Arts de la Parole avec un slogan « La culture, c'est pas que pour du beurre ».
Écoutez De Vive Voix avec Pascal Paradou du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.
tout à l'heure sur RFI.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Au sommaire du club de C'est pas du vent, l'incroyable potentiel des champignons, la préservation du bois de Santal à Madagascar, le recyclage des réfrigérateurs au Portugal et la place de l'écologie dans les élections en Europe.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.